Bonjour, bienvenue sur les fréquences de Tendance Ouest en Normandie, 8h30-9h. Notre invité aujourd'hui, Marion Lucas, qui nous fait le plaisir de venir répondre à quelques questions concernant un livre. Et son éditeur est Artege, et le livre a comme titre « Le mystère d'une belle âme ». 12,90 €, c'est pas très cher pour une belle âme, et c'est paru en octobre 2022. Le titre de l'émission, c'est « Tendance Confidence », diffusé sur la première radio régionale et indépendante en Normandie, qui s'appelle Tendance Ouest. Le sous-titre de l'émission, « Au cœur de la vie ». Que vous inspirent ces deux mots-clés, cœur et vie?
Merci beaucoup déjà de m'accueillir. Et ben notre vie est d'abord intérieure. Et donc il faut partir encore une fois à la recherche de son cœur, justement de son âme, de se vivre au tréfonds de son âme pour pouvoir avoir une vie qui se déploie dans le faste et la grandeur.
Quelles sont les lignes de votre vie que vous acceptez de livrer ce matin aux auditeurs de Tendance Ouest?
Alors mon parcours de vie, écoutez, déjà je suis mariée depuis 25 ans avec Florent et on a quelques enfants à notre actif. Et puis il y a eu cette rencontre fabuleuse avec Edith Stein il y a quelques années. J'étais en lettres modernes à l'époque. Edith Stein, c'est plutôt la philosophie. Donc on a essayé de conjuguer un petit peu les deux. On m'a encouragée en tout cas à mener ce bonhomme de chemin en disant que ça valait peut-être le coup justement d'accorder à son travail non seulement l'intérêt mais la possibilité de transmettre ensuite autour de moi, parce que c'était une façon plus originale peut-être de la cerner que d'avoir aussi au début ces prismes des lunettes de la littérature. Donc j'ai fait un peu un mix, vous avez pu voir dans l'ouvrage, un mix des deux choses et voilà à peu près le parcours.
À l'heure où des personnes écoutent ce matin cette émission, peut-être en train de petit déjeuner, il est commun de parler de corps, d'âme et d'esprit lorsque nous parlons d'une personne et puis ces différentes manières dont nous pouvons nourrir ces différentes notions. Qu'est-ce que ça vous inspire?
Bah beaucoup de choses. Alors l'âme, moi j'ai essayé de cantonner un peu les choses pour justement que ça soit pas trop technique, parce que c'est technique en fait la question de l'âme. Et je me suis dit que c'était intéressant d'envisager l'âme comme vraiment tout ce qui anime la personne à l'intérieur d'elle-même. Donc tout ce qui est son imagination, sa mémoire, sa façon d'aimer, tout ce qui bouge en fait à l'intérieur de notre vie et qui est effectivement porté par un corps. Et dont Edith Stein dit qu'en fait justement l'âme, elle est portée par le corps, elle est visible par le corps.
Et la notion d'esprit, qu'est-ce que cela vous inspire ?
C'est assez proche, hein, donc on est obligé de faire des définitions un peu fines, mais dans l'âme, ce qui va peut-être plus s'apparenter à la raison, tout ce qui va être plus le raisonnement, la réflexion intellectuelle, l'appréhension des choses intellectuelles de la vie, ce serait peut-être ça la différence.
Marion Lucas, vous êtes docteur en philosophie. Prendre soin de son âme, j'imagine que c'est une notion aussi qui doit vous parler.
C'est vraiment intéressant, je trouve, justement, de prendre soin de son âme, justement, de soigner son âme, sa vie intérieure, avec tout ce qui la colore, et en fait, qui est coloré justement par tout ce qu'on lit, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vit, toutes les rencontres, en fait, qu'on fait. Tout ça, ça colore notre vie intérieure.
Quels sont ces philosophes qui continuent de marquer votre vie pour que nous puissions comprendre aussi qu'il y a plusieurs courants philosophiques?
Ce que j'ai cru comprendre, en tout cas, de la philosophie, c'est qu'effectivement, il y a plusieurs philosophes, mais que chacun s'engage sur son propre chemin à saisir la vérité. Et en fait, c'est ça qui est beau, c'est de voir de l'un à l'autre, il y a cette quête de la vérité. Alors moi, je suis, évidemment, Edith Stein, c'est le must pour moi, un coup de foudre d'amitié que j'ai eu avec elle. Après, j'aime beaucoup Simone Veil également, avec un W, Simone Veil, Hannah Arendt, aussi en philosophie politique. Voilà, c'est peut-être ces femmes qui m'ont le plus éclairée, en tout cas, dans ma vie personnelle.
Quelques mots sur la pensée littéraire de Edith Stein?
C'est une philosophe qui est disciple de Husserl, qui est aussi connue Heidegger. Edith Stein, elle m'a montré, en fait, comment la philosophie éclaire le quotidien.
Alors vous dites à l'instant que la philosophie éclaire le quotidien, elle éclaire la conscience. Il y a une interaction entre les deux.
Plus qu'une interaction, c'est une unification, en fait, de l'être qu'elle propose, je crois, parce que tout est effectivement, on peut tout éclairer par la philosophie, et du coup, ça change la vie.
Et la vie d'Edith Stein, marquée également par les camps de concentration.
Alors il y a eu ça aussi chez elle, même si ça a été le moment le plus court. Il y a certains philosophes qui ont élaboré leur philosophie, ou leur, on pense même Viktor Frankl, sa logothérapie l'a élaboré derrière les grilles du camp. Donc elle, ça a été très court dans sa vie, mais ça a été quand même aussi son dernier chemin.
Alors puisque vous êtes également passionné par cette matière qu'est la philosophie, je vous laisse ce sujet. Comment transmettre des valeurs et éveiller à des libertés? C'est un sujet qui avait été traité par les semaines sociales à Paris. Ça vous inspire ce sujet de valeurs en parlant des philosophes et en parlant aussi de Edith Stein?
Alors je crois que l'un des secrets justement d'Edith Stein, c'est que pour transmettre des valeurs, il faut déjà les vivre. Mais les vivre profondément, et c'est cette question d'unité de vie en fait qui est plaisante chez elle et qu'elle encourage. La liberté, c'est ça, c'est une valeur qui est déposée au tréfonds de l'âme, et elle propose justement que la personne humaine s'en saisisse. Mais il faut s'en saisir, il faut partir à la rencontre de soi-même, pas du tout dans une perspective narcissique ou nombriliste, c'est de se saisir de ce qui vit en nous, de saisir de cette liberté qui ne demande justement qu'à être saisie pour après mieux vivre et être plus heureux.
Mais qu'en est-il de croire en Dieu sans confondre la foi et l'imaginaire? Croire en quelqu'un que nous voyons, c'est pas simple tous les jours, mais croire en quelqu'un qu'on ne voit pas.
Alors pour Edelstein, c'était particulier parce que justement, elle est née dans le judaïsme et elle a suivi sa mère qui était profondément religieuse jusqu'au début de l'adolescence. Après, elle a vraiment écrit noir sur blanc qu'elle n'y croyait plus. Donc il n'y avait plus du tout d'adhésion du cœur, mais elle a suivi sa mère par attachement. Ensuite, à la faveur de ses études en philosophie, elle a eu la rencontre avec la foi chrétienne. Et en fait, elle a observé en fait les gens qui vivaient autour d'elle, les étudiants, une forme de décontraction, de sérénité qui a été en fait un enseignement vivant. En fait, elle a dit « Je ne pouvais pas passer en aveugle devant ce phénomène de la foi qui se déployait devant elle et qui a été couronné pour elle par la lecture d'un livre de Thérèse d'Avila. Thérèse d'Avila, vie écrite par elle-même. Elle aurait lu ce livre en une nuit et terminé l'ouvrage en le fermant en disant « Ça, c'est la vérité ».
Marion Lucas, vous avez consacré votre travail de doctorat en philosophie à la question de la liberté de la femme et dans l'enseignement de Edith Stein, la carmélite assassinée à Auschwitz en 1942 et canonisée par le pape Jean-Paul II en 1998. Et vous êtes l'auteur de ce livre paru aux éditions Arthège, Le mystère d'une belle âme. Mais l'invisibilité de l'âme n'est-elle pas justement un obstacle à la possibilité de sa contemplation?
En fait, l'âme se laisse voir sur les autres, en fait, sur leur visage, sur leur regard, sur leur sourire. Et donc, en fait, non, on peut pas passer à côté. En même temps, c'est un mystère, l'âme. Donc, plus on le creuse, plus il s'approfondit, en fait.
Alors, quel est le sens qui peut nous mettre plus en éveil et nous émerveiller face à cette beauté que peut être l'âme? Est-ce que ça va être la vue, l'odorat, l'ouïe, le goût, le toucher?
Tous, parce que oui, la vue va permettre évidemment de voir l'âme peut-être, mais en même temps, il y a aussi dans l'amour tout l'aspect du toucher qui est un moyen de se dire justement, de laisser son âme aussi s'exprimer. On aime aussi quand on prend un petit enfant dans ses bras, une façon de s'en saisir qui exprime quelque chose de notre âme.
Et des âmes peuvent se rencontrer.
En tout cas, elle encourage beaucoup ça, elle encourage ce contact d'âme à âme. Si c'est une rencontre simplement au seuil de l'âme, la rencontre est moins intéressante. Si elle est rencontrée à l'intérieur de l'âme, la relation humaine est vraiment intéressante.
Alors en bas de page de la couverture de votre livre paru aux éditions Arthège, je peux lire qu'en bonheur rime avec vie intérieure, mais pouvons-nous rendre plus beau l'invisible s'il s'agit déjà de la perfection?
Mais est-ce qu'il s'agit forcément de le rendre plus beau ou plus parfait? C'est peut-être plus tôt, je trouve, avoir un regard plus ample, en fait. C'est ça qui embellit la vie. C'est de voir les choses d'une manière plus large, qui, voilà, voir plus loin que nous-mêmes, et surtout avoir un regard, voilà, qui s'élargit, en fait, tout simplement, décider de voir plus large. Pas se limiter simplement à ce qu'on voit, mais se douter que derrière la personne qu'on rencontre, justement, dans la personne qu'on rencontre, il y a une âme. Et pas seulement derrière, elle l'a sur son visage, elle la porte sur son visage. Dans tout ce qu'elle est, en fait, tout ce qui émane de sa personnalité, c'est aussi une façon de toucher son âme.
Et est-ce que depuis la rédaction de votre livre paru aux éditions Arthège, Marion Lucas, le titre de ce livre, Le mystère d'une belle âme, est-ce que vous avez une vision qui s'est affinée sur les différentes âmes que vous pouvez voir?
Alors, je dirais pas, je n'aurais pas la prétention de penser que j'y vois plus clair, mais une chose est sûre, c'est qu'on n'a pas fini de sonder le mystère de l'âme. Et que depuis que, voilà, l'ouvrage est sorti, et même en le travaillant, ce mystère est infini, mais c'est ce qui le rend passionnant. C'est qu'on n'a pas fini de creuser, et c'est ça le propre du mystère, c'est qu'on le creuse, mais que plus on le creuse, plus on a envie de le creuser.
Vous avez consacré votre travail de doctorat en philosophie à la question de la liberté de la femme. Dans l'enseignement de Edith Stein, nous en avons parlé en première partie d'émission. Nous allons continuer de le faire grâce à votre livre qui est paru en octobre 2022 et qui a comme titre « Le mystère d'une belle âme ». Est-ce que vous avez passé beaucoup de temps en bibliothèque pour réfléchir à cette notion, à ce mystère qu'est l'âme ?
Alors moi, je suis quelqu'un d'assez laborieux, d'assez limité pour tout vous dire. Donc moi, je ne suis pas allée chercher partout non plus ailleurs ce qui se dit sur l'âme, sinon moi, après, j'allais me perdre. Donc je me suis cantonnée à Edith Stein et en fait, avec beaucoup de bonheur, mais aussi parce que je suis fidèle à ce qu'elle enseigne, c'est-à-dire que, notamment les femmes, parce qu'elle parle beaucoup des femmes, et elle dit que la femme a tendance peut-être à multiplier ses recherches, enfin oui, à se disperser en quelque sorte. Elle est guettée plus facilement par la dispersion intérieure, la femme. Et du coup, je dis, si je fais exactement ce qu'elle dénonce, je vais pas être fidèle à son enseignement. C'est-à-dire, je vais pas effectivement me disperser. Je vais essayer de me concentrer sur ce qu'elle a enseigné, et c'est ce que j'essaie de faire.
Un enseignement où la vérité rend libre.
La vérité, si on se cantonne encore une fois à ce qu'enseigne Edith Stein, c'est la vie, en fait, tout ce qui porte vers la vie, tout ce qui pousse vers la vie, c'est pour ça que ça nous attire, en fait. La vérité, c'est le bien, et se mettre au service du bien et contempler le bien. Forcément, ça nous bonifie, ça nous rend bon.
Le mystère d'une belle âme, c'est aussi le mystère d'une rencontre. Et nous avons aussi des rencontres qui nous marquent positivement et d'autres qui peuvent aussi nous blesser.
Et je pense qu'effectivement, il y a des rencontres plus faciles que d'autres. Peut-être pour certaines, on est mieux préparé. Et il y a des gens aussi, effectivement, dans certaines rencontres, on se sent complètement dévoré intérieurement, on est épuisé même. Après, je pense que c'est toujours la question du mystère et le mystère de la souffrance aussi dans chaque âme, que chaque âme porte en elle. Après, je trouve ça très consolant de lire chez Simone Veil, pour le coup, le fait que devant la souffrance d'autrui, on ne peut quelquefois que s'agenouiller. Et s'agenouiller, c'est se mettre aussi en posture de contemplation. Et ça évite peut-être d'être écrasé parfois par le poids du fardeau de d'une rencontre plus ou moins pompante au niveau physique du terme. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des âmes qu'on rencontre qui nous galvanisent, qui nous énergisent en fait.
L'âme, mais d'où vient-elle, cette âme, et où va-t-elle après notre mort?
Edition dit qu'en tout cas, l'âme n'est pas transmise par la voie de l'hérédité. Et ça, je trouve ça extrêmement riche. L'âme n'est pas héréditairement transmise. Et en fait, elle vient en ligne directe de Dieu, c'est ce qu'elle dit. Et effectivement, normalement, le but de la vie, c'est de retourner à Dieu. C'est que l'âme se retrouve enfin face à Dieu à la fin de sa vie, par ce travail qu'elle aura accompli un jour après l'autre, de tâcher de lui ressembler, en fait, aussi d'être meilleur, d'être bon, d'être dans le vrai, d'être juste, d'être dans la paix. Et que l'âme puisse se voir ensuite, une fois la mort franchie, telle qu'elle est connue par Dieu, en fait, telle qu'elle a été créée par Dieu.
Donc l'âme est éternelle, mais qu'en est-il de ceux qui ne croient pas, les athées, qui se disent que voilà, y a rien, je viens de rien, je repars vers rien, c'est le néant.
Bah, j'allais dire, en fait, ça ne change rien. Ils n'y croient pas, mais leur âme est éternelle. Qu'ils n'y croient pas ou qu'ils y croient change peu, puisque c'est Dieu qui leur a transmis, donné cette âme, en fait, pour qu'ils vivent. Après, face, justement, le ciel, on peut espérer, en tout cas, que dans cette rencontre finale qu'eux-mêmes feront au moment de la mort, ils puissent se dire, ah oui, en fait, je t'ai connu et je te reconnais.
L'âme, c'est ce qui nous anime, mais qu'est-ce qui fait vivre cette âme?
C'est l'amour, en fait, qui maintient l'âme en vie. Et l'amour dure au-delà de l'existence de l'être aimé, en fait. C'est ça qui est beau. Et donc, en fait, on peut espérer, on peut croire aussi à ce contact d'âme à âme, au-delà de la mort de la personne qu'on a aimée. Même si c'est pas palpable, c'est une réalité qui n'est pas visible, mais qui est, en fait, pour autant qui existe, en fait.
C'est extraordinaire ce mystère de l'âme. Vous permettez à des auditeurs ensuite, en toute liberté, de se situer comme ils veulent. En fait, cette âme, c'est une beauté contagieuse, telle que l'a décrit Edith Stein.
Je suis très contente si je vous ai contaminé au mystère de l'âme. Et en fait, encore une fois, un jour après l'autre, hein, sans faire forcément des choses extraordinaires, mais en aimant, justement. Et ben, tout ça, c'est quand même le moyen d'aimer, en fait, et d'étendre toute sa personnalité, de travailler le mystère de son âme, de se déployer, en fait, voilà. L'âme, c'est aussi un déploiement intérieur.
Donc l'âme, c'est ce qui nous anime plutôt à faire le bien, mais cela n'évite pas la souffrance.
Ah non, ça n'empêche pas la souffrance, mais est-ce que justement, ça serait pas une consolation que de le savoir? L'amour qu'on a pour l'autre dure au-delà de l'existence de l'être aimé. Encore une fois, je pense pas qu'il faille non plus rechercher une présence, vous voyez, que je sais pas, qu'il y ait quelque chose qui bouge dans la pièce quand on se dit, mais je voudrais toucher l'âme de l'autre. Non, mais je trouve que c'est une consolation de savoir que l'âme est immortelle et qu'au-delà de cette barrière de la mort qui nous sépare les uns des autres, eh bien, il y a ce possible contact spirituel, en fait, voilà.
Marion Lucas, vous êtes l'auteur de ce livre qui a comme titre Le mystère d'une belle âme. C'est paru aux éditions Artege et on peut lire en bas de couverture quand bonheur rime avec vie intérieure. Est-ce que quelque chose a changé en vous entre le début de la rédaction de cet ouvrage et maintenant de le remettre entre les mains des lecteurs ou des lectrices?
Alors, franchement, je ne sais pas si je peux vous dire ça. Je crois surtout que moi, je me sens vraiment porte-parole d'Edith Stein. Voilà, c'est d'ailleurs ce que je mets dans l'avant-propos. Parce que vraiment, elle a un message qui est très consolant pour notre société actuelle. Elle apporte, je crois, des réponses aussi au travers de notre société, par exemple, l'individualisme forcené dans lequel on baigne. Et donc, elle montre à quel point le je a sa place au tréfonds de l'âme. Dire je, c'est répondre de sa vie. Et répondre de sa vie à partir de son intériorité la plus profonde, c'est être à la bonne place, en fait. En la vie, enfin, en cette vie. Et oui, alors, sûrement, je suis différente, mais surtout depuis la thèse, en fait, parce que j'ai travaillé sur la liberté de la femme dans l'œuvre d'Edith Stein. Oui, je suis moulue, en fait, par son enseignement. Parce que c'est ce que je disais, moi, j'étudiais et je fermais les livres en me disant, non, il n'y a plus qu'à, il faut tout appliquer, il faut tout vivre. Donc, oui, c'est un compagnonnage que je vis avec Edith Stein, c'est ça qui me change, oui, très nettement. C'est ça qui me transforme, je pense, enfin, j'ai l'audace de le penser. Et que je suis, oui, je voudrais être son disciple, en fait.
Est-ce qu'il y a des groupes de personnes qui peuvent se retrouver autour de cette philosophie, autour de cette spiritualité d'Edith Stein dont vous avez parlé dans cette émission? Mais c'est bien évident puisque c'est aussi elle qui a fait naître ce livre, Edith Stein, Le mystère d'une belle âme, paru chez Artege.
Ah oui, complètement. Elle est venue me chercher. Hein. Il faut se méfier d'Edith Stein. Quand elle vous agrippe, après, elle vous lâche plus. Écoutez, en fait, j'ai eu la chance de rentrer dans le groupe de recherche steinienne. On se retrouve 3 fois par an à Montmartre entre chercheurs, entre gens qui font de la traduction de ses textes, qui cherchent à diffuser son message. Ça donne lieu à beaucoup de très belles rencontres, de bons moments et des belles amitiés en son nez. Et chacun, je crois, de ceux-là sont sont disciples d'Edith Stein et chacun, là où ils sont, font passer le message, en fait. C'est ça l'idée.
Respirer, nous le savons, est vital. Est-ce que notre âme a aussi besoin de lieux de respiration, selon Edith Stein?
Elle dit, il faut créer une atmosphère dans laquelle l'âme puisse respirer. Et en fait, c'est à chacun aussi d'entretenir son atmosphère spirituelle. Qu'est-ce que je regarde comme film? Qu'est-ce que je lis comme livre? Quels sont les gens que je vois, etc., qui font que, effectivement, on est pollué ou pas, en fait, aussi à l'intérieur de soi. Donc, c'est une question d'écologie personnelle, hein, avant même l'écologie dont on nous farcit un peu les oreilles actuellement. Je pense que c'est intéressant de s'attarder sur cette idée d'hygiène intérieure, en fait, au niveau de l'âme.
Et qu'auriez-vous envie de dire à l'auditeur de Tendance Ouest ce matin, Marion Lucas, pour qu'il puisse faire l'acquisition de votre livre intitulé « Le mystère d'une belle âme » ?
Je pense qu'il faut avoir un appétit pour la vérité, une envie de connaître ce que nous sommes en fait, hein, et accepter de se pencher sur son propre mystère en sachant que c'est forcément limité aussi cet ouvrage, mais que voilà, si la personne humaine est limitée par sa finitude, on est des êtres finis, on n'est pas limité pour autant à notre finitude, donc on peut voir, voilà, je pense qu'on peut voir plus loin, notre âme est plus vaste que le monde en fait.
Que direz-vous à Dieu au soir de votre vie? Peut-être que ce sera votre âme qui sera face à Dieu, lui le créateur de toute chose et de tout être vivant. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à Dieu au soir de votre vie ou au matin d'une nouvelle journée qui s'appellerait l'éternité?
Je dirais peut-être j'ai essayé de t'aimer.
Merci beaucoup Marion Lucas pour ce temps accordé à cette émission Tendance Confidence.
Je vous en prie, merci de votre accueil.